Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC a visité hier des milliers de personnes déplacées du site de Kahembe près de Goma au Nord Kivu. Au terme de sa visite, Alison King a annoncé que son pays va doubler son assistance humanitaire en faveur de la RDC. Alison King sera notre invitée à la fin de ce journal. La 49e session plénière de l'Assemblée de la francophonie APF débute ce vendredi à Montréal au Canada. Les débats entre les délégués des parlements des pays francophones vont tourner autour de l'intelligence artificielle. Et puis nous apprenons qu'un énorme incendie a causé d'importants dégâts à la fin du mois de juin dernier dans le territoire de Lubefu, province de Sankuru. Des maisons d'habitation, des écoles et autres centres de santé sont partis en fumée dans environ 7 villages. Le député national Hippolyte Njonga Mbondjadi, élu de Lubefu, qui l'annonce, plaide pour l'assistance des familles sinistrées exposées aux intempéries. Bonjour à tous. Le Royaume-Uni va doubler son assistance humanitaire en faveur de la RDC. C'est Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC qui le dit. Alison King s'est ainsi exprimée hier jeudi à Goma. En mission dans le Nord Kivu, la diplomate britannique a visité des milliers de personnes déplacées qui vivent dans des conditions difficiles dans le site de Kahembe près de Goma. Les détails avec vous, Rosalie Zawadi.
Touchée par les conditions de vie des déplacés, Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni annonce que son pays va revoir à la hausse l'enveloppe de son aide au niveau bilatéral. C'est sans compter les interventions gérées directement à partir de sa capitale, précise Madame Alison King.
Dans le domaine humanitaire, nos contributions s'élèveront à jusqu'à 105 millions de livres sterling, c'est-à-dire 120 millions de dollars pendant les 3 ans, de 2024 jusqu'à 2026. Mais ça ne compte pas aussi nos contributions multilatérales, plusieurs initiatives, et nous avons aussi des programmes qui sont gérés de la part de Londres directement dans les domaines de santé reproductive, par exemple.
Sur le terrain, un acteur humanitaire a directement expliqué à Madame l'ambassadrice qu'elle est faite pour les déplacer de rester plus longtemps dans les sites est à la base de nombreux défis.
Avec la durabilité des déplacements, beaucoup des capacités qui sont venues en intervention se sont épuisées.
Oui.
Donc il est resté juste en termes de hoche des services vraiment basiques en termes de fourniture d'eau. Et puis beaucoup de latrines se remplissent. C'est une autre réalité. Il y a déjà aussi un défi pour les vider qui se pose.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
La MONUSCO travaille avec tous les partenaires pour promouvoir une solution au conflit dans l'est de la RDC. Déclaration hier jeudi à Goma de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en RDC en charge de la protection et des opérations, Viviane Van de Perre, s'est ainsi exprimée après avoir visité ensemble avec Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC les déplacés vivant dans le site de l'école primaire Kahembe au nord de Goma. Les deux responsables ont été touchés par les conditions difficiles dans lesquelles vivent les déplacés depuis près de 2 ans maintenant. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU à RDC partage son constat au micro de Rosalie Zawadi.
En tant que femme leader et en tant que mère, l'ambassadrice et moi sont très touchées par notre visite aux femmes déplacées. Les femmes sont très fortes, mais c'est une situation très difficile. Il a été extrêmement utile d'entendre des témoignages personnels sur les difficultés rencontrées par les personnes déplacées, en particulier les femmes. Ils ont de nombreux besoins importants, notamment une protection contre la violence sexuelle et de meilleur accès à l'installation hygiénique. Mais le message était clair. Leur plus grand besoin est la paix. MONUSCO travaille avec tous les partenaires pour promouvoir une solution au conflit à l'Est et nous remercions le Royaume-Uni pour son soutien, non seulement sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan politique, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. La MONUSCO, pour sa part, reste déterminée à faire ce qu'elle peut pour la protection des civils tant que nous aurons encore un mandat au Nord Kivu.
Dans la ville de Beni, le service de la protection civile vient de réactiver son mécanisme d'alerte pour l'accueil des déplacés qui fuient le combat entre les FRDC et le M23 dans le territoire de Lubero, toujours au nord Kivu. Jean-Paul Capitula, coordonnateur de cette structure, annonce que les cadres de base sont déjà informés sur leur rôle d'identification et d'enregistrement des ménages déplacés qui arrivent dans la communauté. C'est pour permettre de plaider pour eux auprès des autorités et des humanitaires pour leur prise en charge. Jean-Paul Capitula explique au micro de Marc Marofimbo.
Vous savez que notre ville est hospitalière. On a toujours le mécanisme qui est disponible, c'est que les familles sont là. Et comment nous on reçoit les informations? C'est à partir des chefs de base. Et aussi, nous avons un système d'alerte qui est là. Il y a nos volontaires qui sont dans la communauté, qui observent et qui nous informent de toute éventualité. Au niveau des points d'entrée de la ville, que ce soit sur la route Butembo, que ce soit sur la route Mangina, que ce soit sur la route Owicha, sur la route Kasindi, ceux qui reçoivent, ce sont les chefs de quartier. Donc le mécanisme, il est là, il est connu, il est standard. Mais au moins, on doit dire clair que certaines personnes ont fait une fausse alerte pour avoir vu quelques ménages de dépendants des militaires s'arrêter devant la mairie de Béni et ils ont oui dire que c'était des déplacés. Non, ce sont des femmes militaires avec leur famille qui fuyaient la guerre. Et là, on ne pouvait pas dire que ce sont des déplacés. Parce que dans la dynamique des instruments juridiques, que ce soit nationaux ou internationaux qui parlent de mouvements de population, les militaires et leurs dépendants, ils ne sont jamais vraiment considérés comme des déplacés.
Et puis, dans le territoire de Lubero, un centre de santé et des maisons d'habitation ont été incendiés mercredi dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF à Masinzi. La société civile locale rapporte que les assaillants ont attaqué ce village du groupement de Manzia en l'absence de la population qu'il avait déjà abandonnée depuis plus d'une semaine à la suite des attaques de ces mêmes ADF dans la zone. L'information est confirmée par l'administrateur du territoire de Lubero. Sans plus de détails, la société civile plaide pour le déploiement de l'armée dans la zone de Masinzi pour protéger la population. Ici à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur promet de vrai en faveur de la professionnalisation de la police nationale congolaise. Selon Jacquemain Chabani, cela passe aussi par l'amélioration de la rémunération au sein de la police nationale congolaise pour rendre la carrière policière plus attractive. Il promet aussi de construire et de réhabiliter des commissariats pour améliorer les conditions de travail du policier. Ces promesses sont contenues dans son adresse faite hier jeudi au commissariat général de la police nationale congolaise au cours de la cérémonie de prise d'armes au cours de laquelle il a été présenté aux policiers. On l'écoute au micro d'Étienne Lissumbo.
C'est pour cette raison que mon engagement tiendra compte de ceux qui précèdent et s'attachera à professionnaliser la police nationale pour un rendement meilleur à la nation. Ainsi, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. La construction et la réhabilitation des commissariats vont améliorer les conditions de travail du policier. La construction des quartiers généraux, des camps, des casernes et des structures médicales dans l'optique d'assurer la police de proximité va rétablir la confiance entre la police et la population et va aussi améliorer l'image de marque de la police nationale congolaise.
Notez que la cérémonie de prise d'armes des policiers s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, du vice-ministre de l'Intérieur, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et des généraux de la police nationale congolaise. Début ce vendredi à Montréal de la 49e session plénière de l'Assemblée de la francophonie APF. Pendant 5 jours, les délégués des parlements des pays francophones des quatre coins du monde vont débattre sur l'intelligence artificielle. Répondant à l'invitation du Parlement du Canada, cet événement d'envergure réunit près de 300 participants, dont une délégation de plus d'une vingtaine de députés et administratifs de l'Assemblée nationale congolaise. Michel Kifindangoy.
Sous la présidence de Francis Drouin, député du Canada, président de l'APEF depuis 2022, le débat général de cette session portera sur l'intelligence artificielle, une thématique au cœur des enjeux contemporains. Ce débat entre parlementaires permettra de croiser les points de vue et donnera lieu à un plan d'action concret pour une meilleure utilisation de l'intelligence artificielle dans les milieux parlementaires. Ce sera l'occasion pour la RDC de planifier comment renforcer renforcer la démocratie participative au sein du Parlement grâce à l'intelligence artificielle. Ainsi, une forte délégation de plus de 20 députés et personnels politiques accompagne le président Vital Kamerhe à cette session qui réunit plusieurs activités en parallèle. En effet, il se tiendra aussi pendant la même période la 10e édition du Parlement francophone des jeunes, un événement emblématique des jeunes francophones célébrant cette année ses 20 ans d'existence.
En économie, le Fonds monétaire international approuve la 6e et dernière revue du programme économique signé en 2021 avec la RDC. À l'occasion, le ministre des Finances Doudou Fouamba Likunde Libotai a reçu dans son cabinet de travail le représentant résident à FMI RDC, Gabriel Leost. Occasion pour le représentant légal du FMI à RDC de féliciter l'ensemble des autorités congolaises car c'est pour la première fois de l'histoire de la RDC que le FMI va jusqu'à la fin du programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit FEC du Fonds monétaire international. On écoute Gabriel Leost au micro de Michel Kifindangoy.
Je viens d'avoir l'honneur d'être reçu par Monsieur le ministre des Finances. C'était l'occasion, effectivement, à travers lui, de féliciter l'ensemble des autorités de la RDC, puisqu'effectivement, hier, s'est tenu le conseil d'administration du Fonds monétaire international qui a validé la 6e et dernière revue du programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. C'est un moment quand même important, on peut même dire historique, puisque c'est pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo qu'un tel programme va jusqu'à sa fin, c'est-à-dire que l'ensemble des revues ont pu être conclues. Ça a aussi été l'occasion pour le ministre de montrer sa détermination à participer à la mise en œuvre des priorités du deuxième mandat du président de la République, du nouveau gouvernement. Et donc nous avons discuté dans ce cadre de quel pourrait être l'accompagnement du Fonds monétaire international.
Province de l'Équateur à présent, le ministre provincial de la Justice interdit formellement le gel des comptes salaires sur réquisition des magistrats des parquets civils et militaires. Plusieurs agents publics et des militaires en font les frais à la demande de leurs créanciers d'usure. La mesure s'adresse aux magistrats des parquets civils et militaires, gérants ou directeurs des banques payantes et à tous les habitants de la province de l'Équateur. Le point avec Paul Richard Malengela.
Dans sa note circulaire du 1er juillet, le ministre provincial de la Justice Équateur, Marval Lochekelami, se montre plutôt choqué, notamment par le gel des comptes salaires des paisibles agences publiques sur réquisition des magistrats des parquets civils et militaires ayant reçu une plainte d'usurier ou autres créanciers. Car selon lui, plusieurs foyers dans la province sont déstabilisés, des enfants ont dû abandonner les études à cause des salaires hypothéqués. Pourtant, le salaire a un caractère alimentaire, ajoute le ministre provincial Lochekelami, et que l'insolvabilité ou retard de paiement des dettes n'est pas une infraction pénale. De ce fait, poursuit-il, la compétence de règlement en cette matière échappe aux magistrats du parquet. Voilà pourquoi la note du ministre instruit toutes les banques commerciales implantées à l'Équateur de dégel de tous les comptes salaires illégalement gelés par les magistrats des différents parquets. En revanche, elle interdit désormais le gel sur réquisition des mêmes autorités judiciaires pour motif apparent ou non apparent d'insolvabilité. Le président du cadre des concertations de la société civile de l'Équateur, Fabien Munguza, lui, qualifie la mesure de salutaire pour de nombreux foyers aujourd'hui en déconfiture, ce à cause de l'usure qui reste prohibée par les lois du pays et par Dieu. Toutefois, il se réserve quant à l'indépendance de la justice. Bandaka, Porsche Manengela, Radio Okapi.
Nous apprenons qu'un énorme incendie a causé d'importants dégâts la dernière semaine du mois de juin dernier. Nous sommes dans le territoire de Lubefu, province de Sankoro. Environ 7 villages ont été totalement incendiés. Maisons d'habitation, écoles et autres centres de santé sont partis en fumée. L'information est livrée par le député national Hippolyte Njongambo Ndjadi. L'élu de Lubefu plaide pour que le gouvernement assiste les familles sinistrées qui sont sans abri et exposées donc aux intempéries. On l'écoute dans ses propos recueillis par Richard Junior Kamunga.
L'on constate des écoles, des centres de santé, des maisons d'habitation complètement calcinées. Le bilan provisoire à notre possession se présente comme suite. Dans les secteurs de Njovu, groupement de Benakoy, 2 villages sont concernés. Le village Osenge, 115 maisons brûlées. Le village Lomungu, 223 maisons brûlées. dans le même secteur de Ndjovu. Groupement de Okunja-Sungu, la mission protestante de Minga, 152 maisons brûlées. Village Asekou-Kalo, Astan, 96 maisons brûlées. Dans le secteur d'Ngandoum, groupement d'Okotosala, le village Djalo-Koto, 117 maisons brûlées. À la mission catholique de Lubefu, groupement de Pembe, 36 maisons brûlées. Et enfin, dans le secteur de Basongé, village Makadi, il y a au moins 215 maisons qui ont été brûlées. Voici un peu en gros la situation qui se passe actuellement à Lubefu.
Actualité internationale.
Près de 90 migrants ont péri lundi lors du naufrage de leur embarcation au large des côtes de la Mauritanie sur la route de l'Europe. Des dizaines d'autres sont portés disparus. Les gardes-côtes ont secouru 9 personnes, dont une fillette de 5 ans, selon l'agence officielle mauritanienne. L'agence cite des témoignages des survivants selon lesquels le bateau était parti de la frontière entre le Sénégal et la Gambie avec à son bord 170 passagers et qui porterait à 72 le nombre de disparus. C'est le dernier drame en date sur la route migratoire de l'Atlantique avec pour première destination les Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée de l'Europe.
L'invité.
Le Royaume-Uni va poursuivre l'aide humanitaire en faveur des populations déplacées du Nord Kivu tout en soutenant les processus de paix dans la région. C'est ce qu'a dit hier jeudi à Goma, Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni à RDC. C'était à l'issue de sa visite au site des déplacés de l'Epekahembe ainsi qu'au centre de santé de Kanyaruchinya. Alison King partage son expérience vécue avec les déplacés dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Madame Alison King, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de visiter un site des déplacés au nord de Goma. Vos impressions d'abord?
J'ai voulu voir avec mes propres yeux la réalité sur terrain des personnes déplacées et surtout la situation des femmes et des filles. Donc c'était un plaisir pour moi d'aller avec Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies aussi. Et on a eu une rencontre avec les jeunes filles du site. Mes impressions, premièrement, l'importance absolue de la paix. Deuxièmement, les circonstances terribles dont elles vivent, et les risques de viol, de violences sexuelles, le manque d'hygiène et dignité, surtout pendant leur menstruation, mais aussi leur courage.
En parlant du courage, qu'est-ce qui vous a marqué dans la vie de ces familles que vous avez vues?
Même si les familles sont hébergées dans des écoles, hein, il y a plusieurs ménages qui, dans chaque salle de classe des écoles ou dans l'abri informel, mais il y a toujours une détermination de trouver comment financer les besoins de leur famille, leurs enfants, d'aller chercher les soins médicaux nécessaires pour la santé de leur famille, d'avoir des petits commerces et d'avoir de la dignité.
Et au centre de santé de Kanyaruchinya, un centre qui prend en charge les familles déplacées, qu'est-ce que vous avez aussi constaté?
Les besoins sont énormes. Les conditions des personnes déplacées qui n'en sont pas tout à fait dignes sont aussi dangereuses pour la santé. Et j'ai vu que l'incidence des maladies respiratoires, ils vivent dans le froid et la poussière, aussi les maladies telles que les diarrhées, la choléra. Et actuellement, il y a un grand souci sur l'arrivée de cette variole de singe, monkeypox ou mpox, qui peut être dangereux et parce que c'est impossible d'isoler les gens qui sont infectés. Et aussi, je dois dire, les enfants qui souffrent de la malnutrition. J'ai vu au centre de santé qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont pris en charge à cause de leur malnutrition.
Et comme représentante de votre pays, les Royaumes-Unis à RDC, que comptez-vous faire pour que ces gens retrouvent leur vie dans leur village?
On doit contribuer en répondant aux besoins humanitaires. Et cette année, on va doubler, ou plus que doubler, notre aide humanitaire. Donc il y a plusieurs axes de ça dans les domaines de santé, mais aussi des solutions durables. Par exemple, d'éviter d'avoir les camionnettes avec l'eau, mais plutôt de construire l'infrastructure durable qui va offrir ou fournir de l'eau potable aux communautés. Mais éventuellement, ce sont que des symptômes. Il faut qu'on renforce nos efforts pour aider tous ceux qui veulent la paix parce que la paix est à la base de tout ça. Et j'ai bien entendu des femmes et des filles l'importance absolue de la paix.
Votre pays est membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Après tout ce que vous avez vu, que pouvez-vous faire à ces niveaux-là pour que ces populations puissent retrouver la paix?
Globalement, nous soutenons les deux processus régionaux de la paix, le processus de Luanda et aussi celui de Nairobi. Aussi, nous soutenons les efforts de toute la famille des Nations Unies, dont la MONUSCO certainement, mais aussi les agences, fonds et programmes des Nations Unies qui font du travail indispensable ici en RDC et surtout dans le Nord Kivu et Turi. Mais au-delà de ça, surtout après aujourd'hui, quand j'ai écouté les témoignages des femmes qui ont été violées, qui ont été obligées de vendre leur corps pour survivre, je voudrais dire un mot sur l'importance d'écouter les voix des victimes, des survivantes, d'avoir des solutions juridiques et de lutter contre l'impunité, de dire que chaque abus sexuel est vraiment un crime qui doit être pris en sérieux, mais aussi qu'il y ait des solutions pour les enfants nés de la violence sexuelle qui sont capables de recevoir une identité.
Madame Alison King, merci.
Merci à vous.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.